Lettre 138 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, mercredi 28 août 1675. Si l'on pouvait écrire tous les jours, je m'en accommoderais fort bien. Je trouve même quelquefois le moyen de le faire, quoique mes lettres ne partent pas, mais le plaisir d'écrire est uniquement pour vous. Car à tout le reste du monde, on voudrait avoir écrit, et c'est parce qu'on le doit. Vraiment, ma fille, je m'en vais bien encore vous parler de M. de Turenne. Madame Delbeuf, qui demeure pour quelques jours chez le cardinal de Bouillon, me pria hier de dîner avec eux deux pour parler de leur affliction. Madame de Lafayette y vint. Nous fîmes bien précisément ce que nous avions résolu. Les yeux ne nous séchèrent pas. Madame Delbeuf avait un portrait divinement bien fait de ce héros dont tout le train était arrivé à 11 heures. Tous ces pauvres gens étaient en larmes et déjà tout habillés de deuil. Il vint 3 gentilshommes qui pensèrent mourir en voyant ce portrait. C'étaient des cris qui faisaient fendre le cœur. Ils ne pouvaient prononcer une parole. Ses valets de chambre, ses laquais, ses pages, ses trompettes, tout était fondu en larmes et faisait fondre les autres. Le premier qui fut en état de parler répondit à nos tristes questions. Nous nous fîmes raconter sa mort. Il voulait se confesser et, en se cachotant, il avait donné ses ordres pour le soir et il devait communier le lendemain dimanche, qui était le jour qu'il croyait donner la bataille. Il monta à cheval le samedi à 2 heures, après avoir mangé, et comme il avait bien des gens avec lui, il les laissa tous à 30 pas de la hauteur où il voulait aller et dit au petit Delbeuf « Mon neveu, demeurez là. Vous ne faites que tourner autour de moi, vous me feriez reconnaître. » M. d'Hamilton, qui se trouva près de l'endroit où il allait, lui dit « Monsieur, venez par ici, on tire du côté où vous allez. »« Monsieur, lui dit-il, vous avez raison, je ne veux point du tout être tué aujourd'hui, ce sera le mieux du monde. » Il eut à peine tourné son cheval qu'il aperçut Saint-Hilaire, le chapeau à la main, qui lui dit « Monsieur, jetez les yeux sur cette batterie que je viens de faire placer là. » M. de Turenne revint. Et dans l'instant, sans être arrêté, il eut le bras et le corps fracassés du même coup qui emporta le bras et la main qui tenait le chapeau de Saint-Hilaire. Ce gentilhomme, qui le regardait toujours, ne le voit point tomber. Le cheval l'emporte où il avait laissé le petit Delbeuf. Il n'était point encore tombé, mais il était penché le nez sur l'arçon. Dans ce moment, le cheval s'arrête. Le héros tombe entre les bras de ses gens. Il ouvre 2 fois 2 grands yeux et la bouche et demeure tranquille pour jamais. Songez qu'il était mort et qu'il avait une partie du cœur emportée. On crie, on pleure. M. d'Hamilton fait cesser le bruit et ôter le petit Delbeuf qui s'était jeté sur le corps, qui ne voulait pas le quitter et se pâmait de crier. On couvre le corps d'un manteau, on le porte dans une haie, on le garde à petit bruit. Un carrosse vient, on l'emporte dans sa tente. Ce fut là où M. de Lorge, M. de Roy et beaucoup d'autres pensèrent mourir de douleur. Mais il fallut se faire violence et songer aux grandes affaires qu'on avait sur les bras. On lui a fait un service militaire dans le camp où les larmes et les cris faisaient le véritable deuil. Tous les officiers avaient pourtant des écharpes de crêpe. Tous les tambours en étaient couverts. Ils ne battaient qu'un coup, les piques traînantes et les mousquets renversés. Mais ces cris de toute une armée ne se peuvent pas représenter sans que l'on en soit tout ému. Ses 2 neveux étaient à cette pompe, dans l'état que vous pouvez penser. M. de Roy, tout blessé, s'y fit porter, car cette messe ne fut dite que quand ils eurent repassé le Rhin. Je pense que le pauvre chevalier de Grignan était bien abîmé de douleur. Quand ce corps a quitté son armée, ça a été encore une autre désolation. Et partout où il a passé, on n'entendait que des clameurs. Mais à Langres, ils se sont surpassés. Ils allèrent au-devant de lui en habit de deuil, au nombre de plus de 200, suivis du peuple, tout le clergé en cérémonie. Il y eut un service solennel dans la ville, et en un moment, ils se cotisèrent tous pour cette dépense, qui monta à 5 000 francs, parce qu'ils reconduisirent le corps jusqu'à la première ville et voulurent défrayer tout le train. Que dites-vous de ces marques naturelles d'une affection fondée sur un mérite extraordinaire? Il arrive à Saint-Denis ce soir ou demain. Tous ces gens l'allaient reprendre à 2 lieues d'ici. Il sera dans une chapelle en dépôt, on lui fera un service à Saint-Denis, en attendant celui de Notre-Dame, qui sera solennel. Voilà quel fut le divertissement que nous eûmes. Nous dînâmes comme vous pouvez penser, et jusqu'à 4 heures, nous ne fîmes que soupirer. Le cardinal de Bouillon parla de vous et répondit que vous n'auriez point évité cette triste partie si vous aviez été ici. Je l'assurai fort de votre douleur. Il vous fera réponse et à monsieur de Grignan. Il me pria de vous dire 1000 amitiés et la bonne d'Elbeuf qui perd tout aussi bien que son fils. Voilà une belle chose de m'être embarqué à vous conter ce que vous saviez déjà, mais ces originaux m'ont frappé et j'ai été bien aise de vous faire voir que voilà comme on oublie monsieur de Turenne en ce pays-ci. Monsieur de Lagarde me dit l'autre jour que, dans l'enthousiasme des merveilles que l'on disait du chevalier, il exhorta ses frères à faire un effort pour lui dans cette occasion, afin de soutenir sa fortune, au moins le reste de cette année, et qu'il les trouva tous deux fort disposés à faire des choses extraordinaires. Ce bon Lagarde est à Fontainebleau, d'où il doit revenir dans 3 jours pour partir enfin, car il en meurt d'envie à ce qu'il dit. Mais les courtisans ont bien de la glu autour d'eux. Vraiment, l'état de Madame de Sanzay est déplorable. Nous ne savons rien de son mari. Il n'est ni vivant, ni mort, ni blessé, ni prisonnier. Ces gens n'écrivent point. Monsieur de la Trousse, après avoir mandé le jour de l'affaire qu'on venait de lui dire qu'il avait été tué, n'en a plus écrit un mot, ni à la pauvre Sanzay, ni à Coulanges. Nous ne savons donc que mander à cette femme désolée. Il est cruel de la laisser dans cet état. Pour moi, je suis très persuadée que son mari est mort. La poussière mêlée avec son sang l'aura défigurée. On ne l'aura pas reconnue, on l'aura dépouillée. Peut-être qu'il aura été tué loin des autres par ceux qui l'ont pris ou par des paysans et sera demeuré au coin de quelque haie. Je trouve plus d'apparence à cette triste destinée qu'à croire qu'il soit prisonnier et qu'on n'entende pas parler de lui. Au reste, ma fille, l'abbé croit mon voyage si nécessaire que je ne puis m'y opposer. Je ne l'aurai pas toujours, ainsi je dois profiter de sa bonne volonté. C'est une course de 2 mois, car le bon abbé ne se porte pas assez bien pour aimer à passer là l'hiver. Il m'en parle d'un air sincère dont je fais vœu d'être toujours la dupe. Tant pis pour ceux qui me trompent. Je comprends que l'ennui serait grand pendant l'hiver. Les longues soirées peuvent être comparées aux longues marches pour être fastidieuses. Je ne m'ennuyais point cet hiver que je vous avais. Vous pouviez fort bien vous ennuyer, vous qui êtes jeune. Mais vous souvient-il de nos lectures ? Il est vrai qu'en retranchant tout ce qui était autour de cette petite table et le livre même, il ne serait pas impossible de ne savoir que devenir. La Providence en ordonnera. Je retiens toujours ce que vous m'avez mandé. On se tire de l'ennui comme des mauvais chemins. On ne voit personne demeurer au milieu d'un mois pour n'avoir pas le courage de l'achever. C'est comme de mourir. Vous ne voyez personne qui ne sache se tirer de ce dernier rôle. Il y a des choses dans vos lettres qu'on ne peut ni qu'on ne veut oublier. Avez-vous mon ami Corbinelli et M. de Vardes ? Je le souhaite, vous aurez bien raisonné, et si vous parlez sans cesse des affaires présentes et de M. de Turenne, et que vous ne puissiez comprendre ce que tout ceci deviendra, en vérité, vous êtes comme nous, et ce n'est point du tout que vous soyez en province. M. de Barillon soupa hier ici. On ne parla que de M. de Turenne. Il en est véritablement très affligé. Il nous contait la solidité de ses vertus, combien il était vrai, combien il aimait la vertu pour elle-même, combien par elle seule il se trouvait récompensé. Et puis finit par dire qu'on ne pouvait pas l'aimer ni être touché de son mérite sans en être plus honnête homme. Sa société communiquait une horreur pour la friponnerie et pour la duplicité qui mettait tous ses amis au-dessus des autres hommes. Dans ce nombre, on distingua fort le chevalier comme un de ceux que ce grand homme aimait et estimait le plus, et aussi comme un de ses adorateurs. Bien des siècles n'en donneront pas un pareil. Je ne trouve pas qu'on soit tout à fait aveugle en celui-ci, au moins les gens que je vois. Je crois que c'est se vanter d'être en bonne compagnie. Je viens de regarder mes dates. Il est certain que je vous ai écrit le vendredi 16. Je vous avais écrit le mercredi 14 et le lundi 12. Il faut que Pacolet ou la bénédiction de Montélimar ait porté très diaboliquement cette lettre. Examinez ce prodige. Mais disons encore un mot de M. de Turenne. Voici ce qui me fut conté hier. Vous connaissez bien Pertuis et son adoration et son attachement pour M. de Turenne. Dès qu'il eut appris sa mort, il écrivit au roi et lui manda. « Sire, j'ai perdu M. de Turenne. Je sens que mon esprit n'est point capable de soutenir ce malheur. Ainsi, n'étant plus en état de servir votre majesté, je lui demande la permission de me démettre du gouvernement du Courtrai. » Le cardinal de Bouillon empêcha qu'on ne rendît cette lettre, mais craignant qu'il ne vînt lui-même, il dit au roi l'effet du désespoir de Pertuis. Le roi entra fort bien dans cette douleur et dit au cardinal de Bouillon qu'il en estimait davantage Pertuis et qu'il ne voulait pas que Pertuis songeât à se retirer, le croyant trop honnête homme pour ne pas toujours faire son devoir, en quelque état qu'il pût être. Voilà commençons ceux qui regrettent ce héros. Au reste, il avait 40 000 livres de rente de partage, et M. Boucherat a trouvé que, toutes ses dettes et ses legs payés, il ne lui restait que 10 000 livres de rente. C'est 200 000 francs pour tous ses héritiers, pourvu que la chicane n'y mette pas le nez. Voilà comme il s'est enrichi en 50 années de service. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse 1000 fois avec une tendresse qui ne peut se représenter.